J'ai décidé de faire entendre ma voix, peut-être parce que j'ai une plateforme qui est un peu plus audible que beaucoup d'autres Congolais qui souffrent en silence de l'affaiblissement de notre État, des crises à répétition qui sont orchestrées par le pouvoir. Il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à expliquer, à sensibiliser et à appeler à ce qu'on mette un terme à ces aventures.
Vous avez clairement appelé le président Joseph Kabila Kabengé à organiser la présidentielle à la fin de cette année. Est-ce que vous êtes sûr que ces élections, ou bien cette présidentielle, aura bel et bien lieu à la date prévue?
Mais personne ne le sait. Le problème qui est là, c'est pas seulement que les élections aient lieu, c'est aussi de quelles élections est-ce que le Congo a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'élections qui permettent de stabiliser le pays, de recréer les conditions de la paix, de réinstaurer l'autorité de l'État. Et ça veut dire qu'il faut des élections qui sont inclusives, qui sont libres et qui sont crédibles. J'ai l'impression malheureusement qu'il y a une culture politique qui s'est créée au Congo, de la triche, de l'instrumentalisation de l'État, des services de sécurité et de la justice, et que tout ça n'est pas de nature à permettre l'organisation d'élections libres.
Oui, vous parliez à l'instant de la justice. Hein. Plusieurs sources parlent même d'une éventuelle condamnation de Monsieur Dokolo, comme ce fut le cas pour Moïse Katumbi-Chapwe. Est-ce que vous en êtes conscient?
J'entends beaucoup de bruit, et puis je sais que c'est une culture qui est généralisée. Enfin, on voit la mainmise de ce monsieur Kalev, que je ne connais pas, de l'ANR, dans des cas comme les cas de Nemwanda Nsemi, les cas des Kamouna Nsapu, des Bana Mouera, etc., etc. Et donc, ça m'étonnerait pas. Ça serait pour moi parfaitement en ligne avec ce que je sais de ce pouvoir qui est prête à tout pour se maintenir. Mais je ne pense pas que quelques mesures qui soient prises, que ce soit judiciaires ou par les services de sécurité, soient de nature à me dissuader de continuer à mener mon combat.
Oui, selon une source sécuritaire à Kinshasa, le service donc de détection militaire des activités anti-patrie hein, a enquêté sur des liens supposés que vous entreteniez avec le général Faustin Munene, qui est un ex-chef d'état-major de l'armée congolaise. Est-ce que vous confirmez avoir eu des liaisons avec Faustin Munene?
Non, je ne connais pas ce monsieur. Je suis personnellement complètement opposé à toute solution violente et à la prise des armes. Je pense qu'on ne guérit pas les souffrances en ajoutant plus de souffrances, et je ne pense pas que le problème soit de remplacer M. Kabila par un autre potentat ou un autre M. Kabila. Je pense que ce qu'il faut, c'est mettre en place un processus qui permette au Congo de pouvoir se stabiliser, de recrédibiliser ses institutions. Et ça, ce n'est pas possible par les armes.
Oui, pourtant cette source a signalé à plusieurs reprises hein, à Luanda où vous résideriez hein, la présence donc du général Munene.
Oui, il y a 7 millions d'habitants à Luanda, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens que je n'ai pas rencontrés, dont on peut signaler la présence à Luanda. Vous me posez la question, je vous réponds. Je ne connais pas M. Munene, je ne suis pas en contact avec lui, je ne suis pas intéressé à un contact avec des personnes qui ont, si c'est son cas, j'imagine qu'en tant que militaire, ça doit être plutôt son approche à lui, qui ont des plans de déstabilisation du Congo par les armes.
Ouais. Syndicat Dokolo, vous êtes déjà dans le viseur de la justice congolaise dans une affaire immobilière et même si vous avez déjà gagné en première instance, est-ce que vous ne risquez pas justement de connaître les mêmes déboires que Katumbi qui, il faut le rappeler, a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation pour atteinte à la sûreté de l'État?
Ben, c'est la logique d'un système répressif qui est au bout du rouleau, qui est à bout de souffle. Moi, ce que je constate, c'est que M. Kabila n'a plus tellement d'options. Peut-être qu'il a un espoir de refaire un troisième dialogue ou d'essayer de convaincre M. Tshisekedi, Félix, d'accepter de lui donner encore quelques mois de sursis. Mais ce que je pense, c'est qu'avec la réaction de toute manière des évêques, toutes ces forfaitures seront bientôt lavées et appartiendront bientôt au passé. Je pense que là maintenant, il y a un appel très fort qui est lancé pour que le peuple congolais puisse s'exprimer dans la paix et dans le respect de nos lois, parce que le droit, le, la manifestation est un droit qui est reconnu dans la Constitution. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui risque de se passer dans les semaines à venir. Donc ces dossiers judiciaires et des services mal ficelés sont un peu des combats d'arrière-garde, à mon sens.
Vous êtes, c'est connu, hein, le gendre du président angolais Eduardo Santos. C'est-à-dire que Luanda prend déjà ses distances avec Joseph Kabila Kabengé?
Il n'y a aucun rapport entre ma relation familiale, mes positions politiques et la position diplomatique d'un État qui est un État voisin et frère du Congo. Et de ce point de vue-là, je ne peux que commenter l'actualité telle que je la suis, mais comme vous la suivez également. Et je constate effectivement que, mais c'est pas seulement le cas de l'Angola, c'est le cas de la plupart des voisins du Congo. Il y a une perte de crédibilité, il y a un agacement, il y a une grande inquiétude de la place de tous les voisins face au degré d'irresponsabilité et la manière dont le président Kabila est en train de gérer les équilibres de la RDC qui risque de déstabiliser toute la sous-région.
Oui, voulez-vous dire que les pays voisins de la RDC, notamment l'Angola, commencent par être progressivement agacés par la position ambiguë de Joseph Kabila?
Mais je pense que les signaux sont assez clairs. Le fait que les Angolais aient retiré leurs coopérants militaires, il y a eu des commentaires qui allaient dans le sens normal, notamment d'exiger du Congo une clarification sur la nature exacte des instabilités qui ont produit des flux de réfugiés du Congo, du Kasaï notamment, vers l'Angola. Je pense que tout ça est effectivement un signe avant-coureur assez clair d'une détérioration de la relation entre les administrations.
Ouais, on sait que l'Angola a toujours été un soutien de poids depuis l'arrivée au pouvoir d'abord de Kabila père, puis de Joseph, le fils. Peut-on dire que l'idylle est en train justement de prendre fin?
C'est une analyse tout à fait personnelle, mais je ne pense pas qu'il y ait de relations subjectives entre l'Angola et le Congo. Je pense que la vision angolaise, c'est que il y a deux peuples frères et voisins qui partagent 2 000 km de frontière. Et donc, il doit y avoir une relation qui est fraternelle et qui est équilibrée et qui est mutuellement respectueuse. Il ne s'agit pas ni d'un soutien personnel à M. Kabila, ni à aucun clan de Congolais. Je pense que, de ce point de vue-là, les Angolais ont une culture qui est assez claire et ils ne s'immiscent pas dans les affaires internes des autres pays.
Oui, et si le président Kabila constituait donc le problème, parce que vous l'avez dit, tous les pays voisins ont peur d'une RDC déstabilisée, si le président Kabila constituait le blocage, peut-être qu'il faille prendre des mesures, non?
Je pense que les seuls qui peuvent prendre des mesures sont les Congolais pour résoudre les problèmes du Congo. Tout le reste, ce sont des vues d'esprit. Je ne vois pas bien ce que l'Angola pourrait faire vis-à-vis du Congo, ni les autres pays voisins. Ils ont déjà un agenda intérieur suffisamment occupé pour ne pas avoir à se mêler des affaires internes du Congo. Par contre, je pense qu'il y a une grande attention qui est accordée effectivement à ce qui se passe au Congo. J'espère que maintenant que Moïse Katumbi a reçu le feu vert des Nations Unies par le Haut Commissariat aux droits humains pour pouvoir rentrer au Congo et exercer ses droits civiques et politiques, qu'il puisse être protégé, peut-être pas si pas par les autorités congolaises, peut-être par les Nations Unies. C'est une idée à approcher, à étudier. Mais en tout cas, je ne vois pas non ce que d'autre que le peuple congolais lui-même pourrait apporter dans le règlement de la crise congolaise.
On vous a vu récemment avec, disons, Moïse Katumbi qui a des ennuis avec le pouvoir congolais. C'est-à-dire que vous lui apportez tout votre soutien dans la perspective de la prochaine élection présidentielle.
Mais vous savez, je pense qu'on n'en est pas encore là. Pour qu'il y ait campagne, il faut qu'il y ait effectivement une élection. Or aujourd'hui, la CENI, qui est à la veille de l'annonce d'un autre échec patent dans l'organisation des élections, qui d'une manière peu scrupuleuse se renvoie la balle avec l'exécutif en disant qu'ils n'ont pas reçu les moyens nécessaires, qu'ils n'ont pas les moyens de travailler, et lorsqu'il s'agit de l'exécutif, que l'organisation du scrutin ne dépend pas d'eux. J'ai l'impression qu'ils sont un peu là maintenant à bout d'arguments, mais qu'effectivement ils vont nous annoncer qu'il n'y aura pas d'élection. Donc mes opinions personnelles, savez, aujourd'hui, je pense qu'il y a c'est pas tellement le moment de faire ses pronostics de campagne ou d'annoncer ses préférences. Je pense que maintenant, c'est le moment d'affirmer d'une voix très forte qu'il nous faut des vraies élections, des bonnes élections, et qu'avec M. Kabila, vraisemblablement, ça ne sera jamais possible.
Oui, mais pourtant, beaucoup de vos compatriotes pensent que le syndicat Dokolo est déjà dans le starting block, lui aussi, hein, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle.
Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je pense que ce qui est important, c'est de s'en tenir à ce que les personnes déclarent. Et comme je vous dis, aujourd'hui, le sens de mon engagement n'est pas du tout politicien dans une perspective d'accès au pouvoir. Vous savez, moi, j'ai une connaissance personnelle de ce que représente la charge du pouvoir. J'ai beaucoup trop de respect pour la fonction politique pour m'aventurer à la légère. Il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit bien plutôt dans la ligne de l'appel que les évêques ont fait et de l'invitation que nous fait la Constitution du Congo à son article 64, alinéa 1, d'en âme et conscience, comme chacun des Congolais, de déterminer si oui ou non il y a une volonté délibérée d'un monsieur, en l'occurrence monsieur Kabila, de se maintenir au pouvoir contre les lois et l'intérêt de ce pays, et d'en tirer toutes les conséquences. Ouais. Donc il s'agit beaucoup plus que de ça, plutôt que du début d'une carrière politique. Maintenant, ce qu'il arrivera dans plusieurs années ou dans le futur, je n'ai pas une boule de cristal pour le lire, mais ce n'est pas en tout cas la préoccupation qui m'occupe aujourd'hui.
Ouais, donc pour l'heure, vous n'êtes pas intéressé par des activités politiques, hein, c'est ça ?
Absolument pas. Du reste, je n'ai pas de parti politique, je ne milite pas dans un parti politique. Je pense que le Congo a suffisamment de politiciens et suffisamment d'hommes politiques. Je pense au contraire d'ailleurs qu'il faudrait réformer l'État à un terme relativement rapide pour dépolitiser un peu la vie publique et disproportionner par rapport aux priorités qui devraient être celles du pays, qui devraient être reconstruire notre économie, donner une perspective et avoir un souci de dignité pour nos populations. Et malheureusement, le jeu politique s'est perverti au Congo. On a des petits chefs de régionaux ou de circonscriptions qui essayent de capitaliser leur force politique en la revendant en plus offrant. Et tout cela dénature le débat public et fait qu'on a une classe politique qui est occupée à faire de la politique plutôt qu'être occupée à reconstruire ce pays.
Ouais.
Et donc, je ne voudrais pas être un politicien qui va s'ajouter aux nuées d'autres politiciens. Ça n'est pas mon approche. J'ai une approche qui est citoyenne, certes engagée, certes je porte des jugements et des actions fortes sur... l'actualité politique de mon pays, sans pour autant être un politicien.
Ouais. Et si jamais donc le jeu politique se pervertit, hein, comme vous l'avez dit, au Congo, est-ce que vous allez être obligé, disons, de regagner une plateforme politique ou de la société civile pour justement booster le processus en vue de l'alternance en RDC ?
Moi, je pense qu'à cette phase, dans cette phase-ci, là où, comme je le disais, à la suite de la Cinco, il va falloir envoyer un message très clair à nos autorités et les mettre sur la touche, parce qu'elles sont le problème qui nous empêche d'avancer vers des élections libres et un rétablissement de la paix et de la cohésion dans notre pays. Je pense qu'effectivement, je suis ouvert à échanger, à partager, à travailler avec tous. Mais je pense principalement notamment à la société civile. Aujourd'hui, l'opposition politique a été laminée par une stratégie très bien montée et très bien huilée de la majorité présidentielle, entre les menaces, les faux procès, les emprisonnements, les intimidations et la corruption. On a un problème qui est que l'opposition congolaise a été très discréditée vis-à-vis de l'opinion publique et n'est plus à même de jouer ce rôle de relais. Et je pense que c'est particulièrement important que l'Église se soit substituée en termes de relais de l'expression de l'opinion. Et je pense que c'est important aussi que toutes les organisations citoyennes puissent renforcer et accompagner l'Église dans ce rôle, afin que s'opère la prise de conscience et se mettent en place les manifestations dans l'ordre et dans le respect des droits, des biens et des personnes. mais des manifestations qui envoient un message suffisamment clair à M. Kabila pour que il abandonne ses projets de se maintenir au pouvoir.
Oui. Vous critiquez donc les éléments du régime Kabila qui refusent, selon vous, hein, d'ouvrir le jeu en vue d'une alternance, mais est-ce le fait que certains opposants ont accepté de jouer le jeu et de regagner le camp du pouvoir, est-ce n'est pas le signe que l'opposition elle-même, du fait de cette division, fait le jeu du pouvoir Kabila?
Ceux de l'opposition qui acceptent de se vendre à M. Kabila, effectivement, font son jeu, mais tout le monde n'est pas non plus achetable dans l'opposition. Il y a des gens qui aujourd'hui mènent un combat qui est désintéressé, qui est courageux, et je pense que c'est avec eux qu'il faut arriver à reconstruire sous l'autorité morale de l'Église et avec le concours de toutes les associations citoyennes, un schéma de sortie de la crise du Congo, cette crise qui porte un nom, Joseph Kabila.
Dans Moïse Katumbi, par exemple. Hein.
Bien sûr, Moïse Katumbi est une pièce importante, mais Tshisekedi en est une autre. D'autres politiciens, certainement, en sont d'autres, et puis beaucoup d'autres citoyens, pas forcément des gens connus, mais je pense justement que les conditions de succès de cet appel et de cette action, c'est un large écho, une grande sensibilisation tous azimuts de tous les Congolais. Vous savez, l'article 64, alinéa 1, je pense que la partie la plus particulière de son interprétation, c'est que tout le monde la voit comme une espèce d'appel immanent, une espèce de Deus ex machina qui réfère un appel qui rallierait tout le monde. C'est faux. Je pense que l'article 64, en tout cas c'est l'interprétation que moi j'en fais, c'est une somme de choix individuels de citoyens congolais qui, en âme et conscience, pensent que notre démocratie est en train d'être prise en otage, notre État est en train d'être affaibli et qu'il faut absolument s'affranchir tout de suite de cette tentative de prise de contrôle de notre démocratie. Et donc, je suis dans ce cas-là. Je parle le plus possible avec le plus de compatriotes possible pour qu'ils effectuent également cette prise de conscience et que, ensemble, nous puissions envoyer un message le plus unanime et le plus pacifique possible et qui permette à M. Kabila de prendre la mesure de la gravité de la situation
Oui.
et de sa situation.
Et dernière partie de cette interview, vous êtes le propriétaire d'une grande fondation, hein, la Fondation Syndicat Dokolo, qui est considérée comme étant la plus grande collection d'art africain au monde. Est-ce que Syndicat Dokolo, vous êtes apte, vous êtes sûr que vous pouvez lutter pour la restitution complète des œuvres d'art africain volées, hein, à leur musée d'origine?
Écoutez, c'est une tâche énorme, mais qui a le mérite de poser des questions qui transcendent le monde de l'art et le monde de la culture, et qui ont à voir avec la dignité des peuples. Et cette dignité, lorsqu'elle doit régir toutes les relations entre les peuples. Elle a également une connotation politique, et en termes de, quand je dis politique, pas politicienne, mais en termes réellement de stratégie de développement qui est centrale, puisque 99% peut-être de notre patrimoine historique à nous, d'Afrique noire, que ce soit historique mais contemporain également, se trouve hors de l'Afrique. Il est important d'attirer l'attention de toutes les institutions qui sont dépositaires de ces trésors, du rôle moral qui leur incombe d'arriver à tout faire pour compenser l'absence de ce pan tout à fait stratégique de notre histoire à un moment très important de l'histoire du continent, là où nous devons nous projeter dans le 21e siècle. Donc l'objectif, c'est effectivement dignifier l'Afrique, l'intégrer dans les circuits du monde de l'art, mais aussi changer la manière dont les institutions et les pays regardent l'Afrique. Nous ne sommes pas un nombre important de bouches à nourrir, mais nous sommes aussi des hommes avec une revendication de dignité et avec une revendication de participation au discours pas seulement sur l'esthétique, mais sur l'évolution de ce monde dans un siècle particulièrement important au tournant de ce siècle. Donc, pour répondre à votre question, nous, on a réussi déjà à trouver, dans le cas du musée de Dundo, qui est dans le nord de l'Angola, le musée des civilisations de Chokwe, une vingtaine pratiquement d'objets très importants et d'objets d'art que nous avons pu rapatrier. Et puis, nous avons le projet justement d'initier des assises internationales, probablement pour l'année prochaine, dans le siège de ma fondation à Porto, au Portugal, qui est le siège de la fondation Hors d'Afrique, pour arriver justement avec des interlocuteurs comme l'UNESCO, les Nations Unies et certains pays africains, certains pays occidentaux, à étudier ces questions et arriver à produire d'abord une charte de morale qui régisse un peu l'attitude de ces institutions vis-à-vis des pays d'origine, mais également qui arrive à contribuer de manière pragmatique à enrichir tous les instruments qui permettraient à l'Afrique d'avoir ce patrimoine historique plus accessible, disons.
La semaine prochaine, hein, précisément début juillet, les 7 et 8 juillet, Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, va accueillir un sommet du G20. Vous, en tant qu'Africain, qu'est-ce que vous attendez, hein, d'un tel sommet qui réunira, 20 puissances du monde?
J'ai toujours eu le sentiment personnellement qu'il était très difficile d'être plus fort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc avant d'attendre quelque chose du G20, moi ce que j'attends, c'est quelque chose de nous, les Africains, et de nous, les Congolais. J'ai le sentiment que l'Afrique a trop eu tendance à penser toujours que les relations internationales étaient régies par les bons sentiments et la solidarité. Nous vivons dans un monde capitaliste et donc les relations sont régies avant tout par une logique de compétition. Par rapport à ça, l'Afrique a beaucoup d'atouts. C'est un réservoir de croissance pour le monde entier pour les prochaines décennies. C'est également un puits de richesse naturelle. C'est également une grande réserve de croissance humaine en termes de volume, donc de marché. Et de ce point de vue-là, je pense que il incomberait réellement aux Africains de définir les stratégies à moyen et long terme pour arriver non pas à être considérés par le G20 dans l'ordre de ses bonnes grâces, mais à plutôt suivre l'exemple des pays asiatiques qui ont su intégrer le G20 comme une nécessité stratégique plutôt que une considération humanitaire.
Peut-être un dernier mot.
Oui, absolument. Je vais continuer, moi, à faire mes tournées, rencontrer tous les Congolais de bonne volonté. J'ai fait ce choix, j'ai pris cette décision en âme et conscience, en observant les différents facteurs. Le fait, depuis le changement de la tentative maladroite de changer la loi électorale en janvier 2015, juste ensuite à ces violences et répétitions soi-disant incontrôlables dans les Kivus, jusqu'au charnier de Maluku, jusqu'à maintenant au charnier et à l'instrumentalisation qui est faite de toutes les souffrances du Kasaï. Et j'ai, en âme et conscience, pris la décision que il fallait que je m'exprime et que je prenne position fortement dans la défense de ce que je pensais être les intérêts de mon pays contre M. Kabila et contre son régime. J'invite tous mes compatriotes à faire le même examen de conscience. S'ils arrivent aux mêmes conclusions que moi, à suivre l'appel des évêques de la Cinco, à abandonner toute idée d'action violente, mais dans l'ordre et dans le respect de nos lois, là où notre État est irresponsable à être responsable, là où notre État viole des lois sur le respect des biens et des personnes, à faire un acte citoyen qui respecte les biens et les personnes, mais à manifester à l'appel de la CENCO, afin d'envoyer un message clair et fort qui ne laissera d'autre choix à M. Kabila que de négocier une sortie honorable et de se mettre à l'abri.